Un grand merci au groupe de jeunes pour ce parcours dans l'évangile de Jean, tout le chapitre 20. C'était bien interprété, ça nous parle aussi à chacun. Eh bien, après Jean chapitre 20, il y a Jean chapitre 21. Alors, on va continuer. Mais souvent, Jean chapitre 21, on connaît surtout les versets 15 et suivants. Et donc, j'ai fait le choix de me poser, qu'on s'intéresse tout particulièrement au versets 1 à 14. Et je n'aborderai pas les versets 15 et suivants, juste effrôler à un moment. Et je vous invite à suivre la lecture de Jean chapitre 21, les 14 premiers versets. Je lis dans la traduction de la Colombe qui s'affiche aussi. Après cela, Jésus se manifesta encore aux disciples sur les bords de la mer de Tibériade. Voici comment il se manifesta. Simon, Pierre, Thomas, appelé Didyme, Nathanaël de Cana en Galilée, les fils de Zébédée et deux autres de ses disciples étaient ensemble. Simon-Pierre leur dit « Je vais pêcher ». Ils lui dirent « Nous allons aussi, nous aussi avec toi ». Ils sortirent et montèrent dans la barque, et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Le matin venu, Jésus se trouva sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit « Enfants, n'avez-vous rien à manger ?» Ils lui répondirent « Non ». Il leur dit « Jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez ». Ils le jetèrent donc et ils n'étaient plus capables de le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre « C'est le Seigneur ». Et dès que Simon-Pierre eut entendu que c'était le Seigneur, il mit son vêtement, car il était nu, et il se jeta dans la mer. Les autres disciples vinrent avec la barque, entraînant le filet plein de poissons, car il n'était éloigné de terre que d'environ 200 coudées, une centaine de mètres. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là un brasier, du poisson qui était posé dessus, et du pain. Et Jésus leur dit « Apportez des poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre monta dans la barque et tira à terre le filet plein de 153 gros poissons. Et quoi qu'il y en eût tant, le filet ne se déchira pas. Jésus leur dit « Venez, mangez. » Et aucun des disciples n'osait lui demander « Qui es-tu ? » Car il savait que c'était le Seigneur. Jésus s'approcha, prit le pain et le leur donna, ainsi que le poisson. C'était déjà la troisième fois que Jésus se manifestait à ses disciples depuis qu'il était ressuscité d'entre les morts. Ce récit se déroule après, bien sûr, la résurrection. Après cela, au verset 1, après tous les événements qui viennent d'être relatés par le groupe de jeunes dans le chapitre 20 de l'évangile de Jean, juste avant. Et voici comment le chapitre 20 s'était terminé. Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceci est écrit afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Les disciples sont dans l'attente, retournent à la pêche. Et Jésus va se saisir de ces circonstances pour leur faire un rappel de leur mission qui s'inscrit dans le prolongement de ces versets et de tout le chapitre 20 de l'évangile de Jean. Jésus-Christ appelle ses disciples à être ses témoins. Il leur confie une mission qui ne repose ni sur leurs capacités, ni sur leurs efforts, mais sur la direction que lui, Jésus, va donner et sur leur obéissance à eux, les disciples. Le premier enseignement, il y en aura quatre, que j'aimerais poser sur la base de ce texte de Jean 20, 21, les versets 1 à 14, c'est une mission qui est impossible sans Jésus. Une mission impossible sans Jésus. Les disciples mentionnés au verset 2 ont quitté Jérusalem, où Jésus a été crucifié, et ils sont retournés en Galilée. On est donc plusieurs jours après, sans qu'on sache exactement combien de temps, combien de jours après la crucifixion et la résurrection dont il est question dans le chapitre précédent. Pourquoi est-ce qu'ils sont là en Galilée ? Eh bien, en fait, ils ne fuient rien, contrairement à ce que certains peuvent dire dans leurs commentaires de ce texte, mais ils sont bien là pour rencontrer Jésus. On le lit dans l'évangile de Matthieu, dans l'évangile de Marc, cet ange qui dit aux disciples de retourner en Galilée, car c'est là qu'ils verront le Seigneur Jésus. Mais dans l'attente, eh bien, la vie continue. Et ils sont allés partir, ils sont partis pour la pêche. Alors non pas la pêche comme un papy qui dirait à son petit-fils « Viens, viens, on va aller pêcher » et puis il sort le camembert, l'opinel, la baguette et puis ils vont pêcher sur le bord de la rivière. Non, rien à voir avec ça. Ils vont pêcher parce que la plupart d'entre eux, c'était des pêcheurs de métier. Ils faisaient ce qu'ils savaient faire. Et puis aussi, bah, il fallait bien continuer à vivre aussi. Et Pierre, comme assez souvent, il est à l'initiative. « Je vais pêcher !» au verset 3. Et les autres disciples qui sont présents ici le suivent pour lui donner un coup de main. Probablement, tous avaient certainement un peu faim. Mais la sortie de pêche s'est avérée infructueuse. Ils sont revenus bredouilles. Et en fait, les disciples ne le savent pas encore, mais Jésus va utiliser cette scène de la vie quotidienne, somme toute banale, qu'est une sortie de pêche pour des pêcheurs, pour leur enseigner des choses importantes sur la mission qu'il va leur confier. Et le premier enseignement, c'est celui-ci. Une mission qui ne peut pas avoir lieu sans lui. Une mission impossible sans Jésus. Le deuxième enseignement, c'est une mission pour tous les disciples de Jésus. C'est le verset 2 que j'affiche à nouveau ici, qui me permet de dire cela. Simon-Pierre, Thomas, appelé Didyme, le jumeau, Nathanaël de Cana en Galilée, les fils de Zébédée et deux autres de ses disciples étaient ensemble. Si vous comptez, il y en a sept. Sept disciples sont présents ici et il me semble que le nombre sept n'est pas un hasard. Comme souvent dans la parole de Dieu, le nombre sept désigne un nombre symbolique pour représenter la plénitude, la totalité. Et cela suggère ici que les sept disciples représentent les disciples de tous les temps. Pas seulement eux les sept ou pas seulement les apôtres ou pas seulement juste quelques-uns, mais bien tous les disciples. Et on peut même aller un peu plus loin dans le symbolisme ici et dire que finalement chacun des sept disciples mentionnés représente un groupe particulier des croyants, des disciples. On a tout d'abord Simon-Pierre, le chef du groupe. Il a souvent été désigné comme tel par le Seigneur Jésus. Et Simon-Pierre a eu un rôle bien particulier en tant que l'apôtre Pierre et le rôle que le Seigneur lui a confié dans Matthieu 16 notamment et ailleurs. Thomas, Nathanaël, représente en quelque sorte la diversité des croyants. Thomas, on l'a vu dans la première partie du culte, il est connu pour être un peu plus lent que les autres à croire. Il a dû toucher, il a dû voir pour finalement croire. Nathanaël, quant à lui, c'est un peu l'inverse de Thomas. Il est question de lui au tout début de l'évangile de Jean, chapitre 1. Et Nathanaël a cru en Jésus rien qu'en entendant les premières paroles de Jésus. Il n'y a pas fallu beaucoup plus. Il a été très rapide à croire. Et dans la communauté des croyants, il y en a qui viennent à la fois très rapidement, un peu comme Nathanaël, et puis d'autres qui vont avoir besoin de plus de temps, de plus d'éléments, de plus de force, de conviction, d'arguments pour finalement croire. Un peu comme Thomas, on pourrait encore mentionner un certain Nicodème aussi, dont il est question au chapitre 3 de ce même évangile. Dans les disciples qui sont présentés ici, sont mentionnés également les fils de Zébédée. Sans aucun doute, Jacques et Jean. Jean, celui qui écrit ce même évangile d'ailleurs, l'évangéliste Jean. Et avec Pierre, Jacques et Jean sont probablement les plus connus des disciples. Ils sont d'ailleurs souvent mentionnés ensemble comme un trio qui a un rôle bien particulier aux côtés de Jésus. Parfois, on voit Jésus juste avec les trois, Pierre, Jacques et Jean, les deux fils de Zébédée, Jacques et Jean. Et puis, on trouve cette mention-là de deux autres de ses disciples, deux autres. On ne sait pas leur nom. Non pas qu'ils étaient inconnus, et Jean qui écrit l'évangile sait très bien quels sont les deux autres qui étaient là dans le bateau avec lui. Mais très probablement que Jean qui écrit cet évangile ne mentionne pas quels sont ces deux autres. Il établit un contraste entre les fils de Zébédée, dont il fait partie lui-même, très connus, limite très médiatisés, et puis deux autres là, des anonymes qui représentent en quelque sorte ceux qui ne sont pas sur le devant de la scène. En fait, la majorité des disciples, ils sont là, ils sont discrets, tout en étant présents, fidèles à Jésus. Ils sont là. Mais nul doute que le Seigneur les connaît par leur nom, tout comme le Seigneur connaît le nom de chacun de ses disciples, de tous les anonymes, mais qui ne sont pas anonymes de lui, pour lui. Sept disciples sont présents ici comme pour dire que tous les disciples de tous les temps sont concernés par cette mission que Jésus confie à son Église. Une mission donc pour tous les disciples de Jésus. Troisième enseignement, une mission dirigée par Jésus et dont le fruit dépend de lui Jésus. On imagine les disciples revenir bredouilles après toute une nuit, ou en tout cas une bonne partie de la nuit, à pêcher. Ils devaient être fatigués, avoir faim, là-dessus certainement une bonne dose de découragement. Et voilà que quelqu'un leur parle depuis le rivage, les interpelle. C'est Jésus, mais ils ne le reconnaissent pas tout de suite. Encore une fois. Un peu comme dans le chapitre précédent qu'on a lu tout à l'heure, dans Jean chapitre 20, verset 15, quand Marie ne reconnaît pas tout de suite que c'est Jésus et elle pense même que c'est le jardinier. Et Jésus leur dit, « Enfants, n'avez-vous rien à manger ?» Il leur parle avec une certaine affection, il utilise le mot « enfant », ça n'a rien de péjoratif pour l'époque, hein. C'est comme si Jésus avait dit « Hé !» « Jeunes gens !» Il les interpelle comme cela. « Jeunes gens, vous n'avez rien pris ? Essayez du côté droit et vous en prendrez. » Jésus ne demande pas aux disciples de réessayer. Non, il leur dit où, il leur dit comment agir. Et ça dit quelque chose du fait que la mission, avant d'être la nôtre, c'est surtout et d'abord celle du Seigneur Jésus-Christ lui-même. C'est lui qui dirige, c'est sa mission et nous, ses disciples, nous prenons part à sa mission. Je questionne ici sur des généralités de ce qu'on peut constater dans des églises aujourd'hui. On n'a jamais vu autant de techniques d'évangélisation que de nos jours, ou même des habitudes d'évangélisation. On a l'habitude de faire comme ceci, et donc on fera toujours comme ceci. C'est de telle manière qu'il faut évangéliser, et pas autrement. Évangéliser, c'est-à-dire annoncer la bonne parole de Jésus au monde. Mais que ce soit à l'échelle de l'Église ou à l'échelle du disciple, est-ce que toutes ces techniques répondent toujours à la volonté de Dieu ? Est-ce que nous cherchons dans la prière la direction de Dieu avant d'agir et avant d'aller parler? Est-ce que nous acceptons que Dieu nous dirige et nous amène à sortir des sentiers battus pour nous conduire vers d'autres personnes, dans d'autres circonstances, d'autres situations, d'autres contextes? Et si au lieu d'un sentier bien dessiné, le Seigneur voulait nous amener faire de la bartasse? Fallait la placer celle-là. Si vous ne savez pas, je vous dirai après. Enfin, en tout cas, un peu plus fouillu, quoi, un peu plus difficile d'avancer. Je pose des questions comme ça pour nous interroger. Revenons à notre récit de Jean 21. Jésus dit à ses disciples de jeter le filet sur le côté droit et les disciples obéissent. Ils font, ils s'exécutent. Peut-être qu'ils ont trouvé la chose un peu curieuse, mais bon, voilà, ils se sont exécutés, peut-être désespérés, on n'en sait trop rien. Et ils se mettent à attraper une quantité de poissons au point qu'ils ont du mal même à retirer le filet de l'eau. Et là aussi, cette notion d'obéissance de la part des disciples, c'est quelque chose qui nous interroge. Est-ce que nous sommes prêts à obéir quand c'est inconfortable, qu'on n'ose pas, voire même quand on a peur? Est-ce que nous sommes prêts à obéir quand il nous en coûte? Ce qui se passe dans ce récit nous enseigne aussi que le résultat, comme je l'ai écrit ici dans le diaporama, le résultat, le fruit de la mission, c'est Jésus qui le produit. Ça lui appartient. Au verset 11, on apprend qu'il y a 153 poissons dans le filet. Alors là, si vous ouvrez des commentaires sur l'évangile de Jean, chapitre 21, 153 poissons, il y en a un ensemble de théories, d'explications, d'interprétations, avec plus ou moins de symbolisme derrière. Et en fait, ça semble beaucoup tiré par les cheveux. Et je ne suis pas convaincu qu'il faille y voir ici un symbolisme bien particulier. Il me semble plutôt que Jean a mentionné le nombre de poissons parce que c'était courant à l'époque. Et les pêcheurs avaient l'habitude, après leur prise, de compter le nombre de poissons et puis de se les partager et ensuite d'aller les vendre le matin même. C'est pour ça que la pêche se faisait la nuit, parce qu'on vendait ensuite au matin le poisson alors qu'il était encore tout frais. Si on compare ce récit de la seconde pêche miraculeuse avec la première pêche miraculeuse dont il est question dans les évangiles, dans l'évangile de Luc, au chapitre 5, il me semble qu'il y a un élément bien plus important qui mérite notre attention, c'est que dans le récit de la première pêche miraculeuse, les filets se sont rompus. Et là, d'ailleurs, on ne savait pas combien il y avait de poissons, mais les filets se sont rompus. Alors qu'ici, dans la seconde pêche miraculeuse, le filet ne se déchire pas. Et ça me semble plus intéressant à relever, et on va voir pourquoi, que le nombre de poissons en lui-même. Dans la première pêche miraculeuse, en Luc chapitre 5, on est au tout début, mais vraiment le tout début du ministère de Jésus, ministère auquel il joint les premiers disciples qui sont des pêcheurs, qui sont là. Et d'ailleurs, ça se passe au même endroit, sur le bord de la mer, le lac de Galilée, le lac de Tibériade, de son autre nom. Jésus est dans une barque, il enseigne à une foule qui est sur le rivage, l'acoustique permettait d'être meilleure, et Jésus demande ensuite aux personnes qui sont là dans le bateau de s'éloigner du rivage et puis d'aller dans des eaux plus profondes. Et là, les filets sont lancés, jetés à sa demande. Des poissons de toutes sortes sont pris et plusieurs des poissons se perdent parce que là, les filets se rompent. Et ça illustre en quelque sorte ce qui va se passer du temps du ministère de Jésus et des apôtres, des premiers disciples qu'il a choisis, les fils de Zébédée, André, Pierre, où beaucoup de personnes vont entendre la parole de Jésus et celle des disciples envoyés sur les chemins de la Galilée, de la Judée. Certains vont recevoir et les accueillir et vont rester dans le filet. Et puis d'autres feront partie de ces poissons qui auront réussi à s'échapper, en quelque sorte. Ce n'est pas péjoratif, cette notion de filet, mais qui ont rejeté la parole de Jésus. Et d'ailleurs, l'évangile de Jean, chapitre 1, verset 12, commence comme ça. Il y en a qui accueillent la lumière, il y en a qui accueillent la parole de vérité, et d'autres qui la rejettent. La seconde pêche miraculeuse dans notre récit de Jean 21 a lieu cette fois-ci, on est tout à la fin du ministère de Jésus. Enfin, c'est même plus le ministère public, là, il est mort, il est ressuscité, il fait des apparitions surtout donc auprès de ses disciples. On est donc à l'opposé hein, de la première pêche. Et les poissons qui sont pêchés représentent finalement les personnes qui sont sauvées parce qu'elles ont accueilli les paroles de Jésus. Il y a cette précision que les poissons sont gros, comme pour dire que chacun a une valeur importante, chacun est précieux. Ce n'est pas un petit poisson, là. Celui-là, on va le remettre en mer. On ne va pas se nourrir avec ça. Non, c'est tous des gros poissons. Tous sont importants. Tous ont de la valeur. Et tous ont cette même caractéristique, c'est que chacun, chacune des personnes qui sont sauvées ont placé leur foi en Jésus. En ce sens, elles sont tous gros. Elles ont tous la même vision, la même foi. Et le filet ne seront pas cette fois-ci. Parce que tous ceux qui sont sauvés par la grâce de Dieu sont gardés par Dieu. Aucun ne se perd. On peut relever encore que dans la seconde pêche miraculeuse, donc en Jean 21, Jésus n'est pas avec ses disciples dans la barque, contrairement à la première pêche. Mais il est sur le rivage. Et pourtant, le résultat de la pêche, il est l'œuvre du Seigneur Jésus. Ce n'est pas nous, les disciples, qui convertissons les gens. Ce n'est pas nous qui allons changer leur cœur. Notre rôle, c'est d'obéir au Seigneur Jésus en étant engagés dans le témoignage de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Dieu s'occupe du reste. Dieu s'occupe de toucher les cœurs, de changer les cœurs, de convertir les personnes. C'est son rôle à lui. Les disciples sont là à s'acharner, à retirer le filet. Et puis le disciple que Jésus aimait, au verset 7, reconnaît que c'est Jésus. Et il dit, c'est le Seigneur. Le disciple que Jésus aimait, c'est Jean. Encore une fois, le Jean, fils de Zébédée, qui a écrit cet évangile. Et peut-être que ce qui vient de se passer là, ça a fait tilt. Première pêche miraculeuse. C'était il y a 3 ans, mais quand même, voilà, c'est quand même pas rien ce qui vient de se passer. Et ça fait tilt. En plus, on est au bord du lac de Galilée, comme la première fois. Enfin, vraiment, beaucoup de ressemblances quand même. Et Pierre, Jean réagissent de manière assez similaire à ce qu'on a vu tout à l'heure dans la première partie avec le groupe de jeunes. Pour Jean, c'est un moment de révélation. C'est le Seigneur. Tout comme quand il est entré dans le tombeau au chapitre 20 et qu'il a vu et il crut. Pierre, lui, c'est un appel à l'action. Dès qu'il entend dire « c'est le Seigneur », eh bien il revêt son vêtement, il saute dans l'eau. Un peu comme au chapitre 20, Pierre, toujours dans l'action, dès qu'il arrive au tombeau, il n'est pas là comme Jean à attendre dehors. Non, il rentre, toujours à l'initiative. Alors il est arrivé après Jean d'ailleurs, probablement parce que Jean était plus jeune, peut-être plus dans la force de l'âge. On l'a vu dans le groupe de jeunes tout à l'heure, hein, le deuxième, on sentait qu'il peinait un petit peu plus, là, Pierre derrière. Ils ont mimé jusque-là aussi, bravo. Mais voilà, Pierre arrive et il rentre tout de suite, il sort de l'eau, enfin il sort de la barque, il plonge dans l'eau, il fait la centaine de mètres là, et il arrive sur le rivage. Et que l'on se retrouve davantage dans le tempérament de l'un ou de l'autre, de Pierre et son impétuosité, ou de Jean et son côté peut-être un peu plus réservé. Cette mission que Jésus nous confie devrait susciter une réaction de notre part. Non pas un devoir religieux ou non pas une pression, mais bien plutôt une réponse à l'amour que Dieu nous a fait en Jésus-Christ, mort pour nous et ressuscité. Un désir de le faire connaître autour de nous, de faire connaître cette bonne nouvelle. Cette mission, donc, elle est dirigée par Jésus et le fruit dépend de lui. Et le quatrième enseignement, c'est une mission qui est enracinée dans la grâce de Jésus, avec les versets 12 à 14. Les disciples savent que c'est le Seigneur Jésus. Ça y est, ils l'ont reconnu, pas besoin de lui demander qui il est. Cependant, on sent un peu une sorte d'hésitation. Ils sont incertains. Ils auraient envie de demander, mais est-ce que c'est vraiment toi ? Mais ils n'osent pas. Ça ressort dans ce récit, mais aussi dans d'autres. Et pour nous qui sommes 2000 ans plus tard, qui avons lu et relu tous ces récits, nous qui insistons tant sur la résurrection de Jésus, nous avons du mal parfois à nous mettre à la place des premiers disciples, là, au lendemain de la résurrection. Et ça ne devait pas être si simple de prendre conscience que Jésus était bel et bien ressuscité. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, Jésus apparaît à ses disciples à plusieurs reprises, dans plusieurs circonstances, de plusieurs manières. Encore une fois, on l'a vu dans le chapitre 20 tout à l'heure, avec le groupe de jeunes, ce qu'ils nous ont rappelé de ce récit. Et c'est la raison pour laquelle Jésus ici s'approche d'eux, il cherche à les rassurer, il comble leurs besoins d'un moment, ils ont faim, ils sont fatigués, ils ont travaillé toute la nuit, ils n'ont rien pris. Il se met une fois de plus à leur service. Je dis une fois de plus parce que dans ce même évangile de Jean, on a en tête au moins ce texte de Jean 13 où Jésus se met à laver les pieds de ses disciples. Il les sert, il se met au service et il leur montre une vie de service. Et il invite ses disciples à vivre aussi cela dans leurs relations les uns avec les autres et au-delà. Jésus est celui qui fait grâce. Jésus est celui qui pourvoit pour ses disciples. Il prend soin d'eux. Il prend soin de nous. La mission que Jésus nous confie repose sur la grâce de Jésus. Et je pense que c'est important de rappeler plusieurs choses ici. Ne nous décourageons pas. Ne nous décourageons pas. Ne méprisons pas les petits commencements. Attendons-nous à ce que Jésus agisse dans la vie des personnes à qui nous parlons de lui. Parfois, c'est vrai, il n'y aura pas, et Jésus ne nous a pas promis, des résultats visibles, toujours, maintenant, dans cette vie de notre vivant. Mais il promet une chose, c'est que sa parole ne revient pas à lui sans avoir produit son effet. Et quand nous parlons de la bonne nouvelle à quelqu'un, eh bien, ça, c'est peut-être un maillon de plus dans la chaîne du partage de la bonne nouvelle de Jésus, jusqu'au jour où la personne, parce que ce sera le moment que Dieu aura choisi, sera touchée dans son cœur. Donc ne nous décourageons pas, ne méprisons pas ces petits commencements. La mission de Jésus ne dépend pas de nos capacités, elle ne dépend pas de nos efforts. Rappelons-nous, c'est sa mission. Et il est au contrôle, aux commandes de sa mission. N'ayons donc pas peur. Une autre chose importante à rappeler. Et c'est vrai que l'indifférence, parfois même l'opposition des personnes qui nous entourent, a de quoi nous intimider au minimum. Mais n'ayons pas peur. Jésus ne nous confie pas une mission sans nous donner aussi les moyens, les ressources pour aller. Même s'il n'est plus là, dans le bateau, mais il est là, quand même. par son esprit, et il nous a fait, nous en prenons pour preuve, la promesse dans un autre évangile, celui de Matthieu, à la fin, tout à la fin, d'être avec nous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Il est là, nul doute. Jésus aurait pu agir seul, mais il a choisi de nous donner un rôle, de parler, de servir, d'aimer notre prochain, de témoigner à notre prochain. Et c'est important de dire que l'annonce de l'Évangile, ce n'est pas que dire sortir et puis voilà, la première personne qu'on croise dans la rue, on va lui parler de Jésus. On annonce l'Évangile avant tout, même je dirais, en acte. On l'annonce en parole, mais on l'annonce surtout, j'ai envie de dire, en acte. Et là, il y en a aussi pour tout le monde, parce que, comme on l'a vu, nous sommes tous concernés par cette mission. Et une troisième chose importante à nous rappeler ici, c'est ne nous sentons pas insuffisants pour témoigner, ou presque, on pourrait dire, illégitimes. Jésus nous joint à sa mission. Et d'ailleurs, c'est subtilement dit quand il dit à Pierre, là, qui vient de le rejoindre, hop, tu retournes là-bas. Oui, il y a déjà un poisson qui est en train d'être grillé là, sur le brasier, mais allez chercher les poissons. Et on va aussi manger de ceux que vous venez de pêcher maintenant. Parce qu'il dit, voilà, je vous inclus à la mission, à ma mission. Il dit ça à Pierre. Et si on lisait la suite, justement, de cet évangile 21, de ce chapitre 21, pardon, on verrait comment Jésus restaure, et c'est souvent ce texte qu'on connaît le plus dans ce chapitre, comment Jésus restaure Pierre dans son rôle, alors qu'il avait, on s'en souvient, un peu plus tôt dans les évangiles, renié Jésus par trois fois. Donc, c'est une mission qui est vraiment enracinée dans la grâce de Jésus. Une mission impossible sans Jésus, une mission où tous les disciples de Jésus sont concernés, une mission dirigée par Jésus et dont le résultat, le fruit, dépend de lui, et une mission enracinée dans la grâce de Jésus. Pour conclure, il me semble intéressant de relever, de rappeler que les évangiles ne se termine pas uniquement sur la résurrection de Jésus. Oui, il y a la résurrection de Jésus, parce que c'est important. Mais les évangiles se terminent, j'ai envie de dire, surtout sur la mission que le Seigneur Jésus, mort et ressuscité, confie à ses disciples, d'aller dans le monde pour partager cette bonne nouvelle du Christ mort et ressuscité. C'est bel et bien ça le but de ce texte de Jean, chapitre 21, les versets 1 à 14. Jésus confie à ses disciples. Jésus nous confie. Jésus te confie, me confie la mission, une mission par laquelle beaucoup seront sauvés parce qu'ils vont, en référence à la fin de l'évangile du chapitre 20 qu'on a lu tout à l'heure, parce qu'ils vont croire que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, ils auront la vie en son nom. Sur qui vas-tu jeter ton filet dans les jours qui viennent? Si on peut dire les choses comme cela. Jésus t'envoie, Jésus nous envoie dans sa mission pour annoncer à qui veut l'entendre que Jésus-Christ est mort sur la croix. Mais, et ça change tout, il est ressuscité. Comme nous le célébrons aujourd'hui, Jésus est vivant, on l'a chanté, on l'a dit et on veut encore le redire.